bed.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Business Club, le premier podcast de sport stratégie, le spécialiste du marketing sportif. Chaque mois, nous vous proposerons dans ce podcast des interviews exclusives de personnalités du monde du sport business et un décryptage des nombreuses thématiques qui font l'actualité du secteur. Que vous soyez professionnel ou étudiant du sport business, le Business Club vous donne toutes les clés pour comprendre le monde bouillonnant du marketing sportif. Et pour ce premier épisode, le Business Club s'attaque à l'événement sportif le plus attendu des prochaines années en France, les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024. Pour en parler aujourd'hui, nous avons trois invités. Vincent Debarry, président de l'agence événementielle de marketing sportif Kenéo. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Rougui Diallo, athlète olympique spécialiste du triple saut. Bonjour Rougui.
Bonjour.
Et Mewen Ferret, ancien judoka et fondateur de Ferret Sport Invest. Bonjour Mewen.
Bonjour.
Alors pour vous présenter Paris 2024 en quelques chiffres, Paris 2024, c'est 150 000 emplois mobilisés pour la préparation et l'organisation des Jeux, des retombées économiques de près de 10 milliards d'euros, et le Centre de droit d'économie et du sport de Limoges estime également à 250 000 le nombre d'emplois créés. Alors en voyant ces chiffres, Vincent, on se doute bien que Paris 2024 sera un événement incontournable pour les agences de marketing sportif. Quel sera le positionnement de Kenéo?
Alors Kenéo est évidemment une des agences en capacité d'organiser une partie des épreuves des Jeux Olympiques, mais nous ne sommes pas les seuls. Vous savez que les Jeux Olympiques de Paris se sont structurés en intégrant une innovation à travers l'Event Delivery Model, ce qu'on appelle l'Event Delivery Model, et la capacité donnée aux agences, aux acteurs du monde du sport, de participer à l'organisation des Jeux. Plutôt que d'avoir une organisation classique, on va dire, dans laquelle un comité se structure, recrute, et prend sur lui l'organisation des Jeux. Donc ce modèle est très très intéressant pour la France, c'est une véritable innovation, parce qu'il est plein de promesses dans la structuration d'une véritable industrie du sport qui pourrait, à l'image de ce qui s'est passé en Angleterre déjà en 2012, se révéler créatrice de valeur pour le pays, d'expérience, etc. Donc évidemment, Kenéo participe à ce mouvement. Il se trouve qu'en ce moment, on est dans une période un peu de flottement sur la finalité de ce modèle et sur son aboutissement. Et probablement, le COJO est en train de revenir un peu en arrière, ce qui est un peu dommage. Enfin, je pense que tout le monde le regrette. Voilà, c'est ainsi. Mais Kenéo, qui a organisé par le passé des championnats du monde de hand, des championnats d'Europe de volley, qui organise chaque année les internationaux de badminton à Paris, évidemment, est candidat, s'est positionné sur un certain nombre d'appels d'offres, dont certains mettent très longtemps à aboutir. On a lancé le premier élément qui a été engagé, c'est Yves Dumanoir pour le hockey sur gazon en janvier 2021, pratiquement. Et on est toujours en compétition au mois de décembre.
Vincent, les marques du secteur du sport seront également attendues au tournant sur Paris 2024, concrètement. Comment les marques se préparent à accueillir l'événement?
Alors, j'aurais un peu de mal à répondre pour toutes les marques, hein. Mais on peut distinguer deux types de marques, les marques partenaires officiels et les autres. Pour les partenaires officiels, elles payent souvent cher leur participation au jeu. Elles ont trop tendance à activer tardivement, en fait, alors qu'il faudrait pouvoir le faire dès qu'elles deviennent partenaires. Enfin, il n'y a pas besoin d'attendre. Sauf que, en fait, ces produits d'activation sur les jeux exigent une organisation sans faille. Et on voit des vraies différences entre les marques qui ont une expérience olympique historique et puis celles qui sont un peu les nouveaux venus. Pour celles-ci, parce que les premières, les grandes marques, je suis pas sûr que j'ai envie de leur donner des conseils. Ils savent faire. Pour celle-ci, je pense que, il faut dédier des équipes. Et c'est pas un job en plus de s'occuper de l'activation des Jeux Olympiques. On le comprend, c'est un travail de tous les instants, parce que rien que sur l'utilisation des symboles olympiques, des anneaux, par exemple, auxquels on pense, il faut avoir identifié les produits, il faut avoir identifié le discours, il faut avoir identifié les étiquettes, les... Enfin, il faut tout imaginer à l'avance pour pouvoir demander la validation sur l'usage des anneaux. Et ce n'est qu'un exemple. Bon. Pour les marques qui sont plus nouvelles, qui ne sont pas partenaires des jeux plutôt, je pense qu'il y a, il y a aussi une problématique de comment vont-elles exister. Et donc, il faut engager très vite les discussions pour savoir comment elles vont pouvoir exister à travers les jeux sans être partenaires des jeux. Bon, enfin, il y a deux points supplémentaires qui me paraissent très importants. Le premier, c'est que chaque Olympiade est l'occasion d'innovation. Et là, Paris 2024 va être une innovation par rapport à la façon dont les jeux étaient organisés avant. Et notamment au niveau de la RSE, enfin, et de l'engagement responsable. Donc, on a dit des jeux à contribution positive. C'est juste énorme. Ça veut dire qu'on va diminuer de moitié l'impact carbone et qu'on va compenser pour pouvoir avoir des jeux à contribution positive. Alors, c'est un formidable défi pour les marques, ça. C'est un défi positif, prenons-le. Sauf que c'est pas facile, quoi. Quand on dit zéro plastique, si je suis un fabricant de boissons, j'ai même pas besoin de vous donner une marque, comment je vais faire? Le verre, ça va être dangereux. Le carton, enfin, vous imaginez une bouteille de Coca-Cola en carton? C'est peut-être une innovation pour certains, mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué à concevoir pour des équipes. Et c'est pas qu'une question de refus, de contribution ou quoi. C'est juste que il y a une petite crainte pour certaines marques que cette formidable ambition positive de jeu à contribution positive, d'accord, se traduise par des vraies difficultés et retarde beaucoup de choses dans la mise en œuvre de l'activation. Après, au-delà de ça, il faut toujours se projeter dans les... Il y a un domaine technologique aussi qui est important. Il faut toujours se projeter en avant. La maîtrise des technologies dans 3 ans, on l'anticipe un peu, mais ce que sera la France de 2024, concrètement, les usages des technologies, ce sera pas encore ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il y a là aussi un défi positif de projection et d'imagination, d'animation pour les marques. Dernière chose peut-être, je pense que pour les marques, ce qui est important, c'est de pouvoir dialoguer, discuter, être proche. Et le COJO doit, bien sûr, il faut respecter l'éthique, bien sûr, il faut respecter la concurrence, bien sûr, il faut... Mais tous les stakeholders autour des jeux ont besoin de dialogue, quoi. Ils ont besoin de dialogue, que ce soit les fédérations internationales, les agences comme Kenéo, les marques comme les partenaires des jeux. Ils ont besoin d'échanger de façon parfois spontanée, quoi. Et c'est vrai que la période actuelle... et les problématiques sanitaires qu'on rencontre, en plus, nous aident pas dans ce dialogue de proximité, de contact. Parfois, aller déjeuner avec un responsable du COJO, c'est utile, d'accord, parce que ça permet de débloquer, pouvoir lui téléphoner, qu'il réponde, ça permet d'avancer, de débloquer. C'est de la réassurance, et les marques ont besoin de ça.
Et justement, vous évoquez la crise sanitaire. Est-ce que justement, avec la crise du Covid, on peut envisager une mise sous cloche des prochains grands événements sportifs, ou même, est-ce qu'une annulation des Jeux est envisageable selon vous?
Alors, il faut faire confiance à l'homme et à sa capacité, je crois. Les Jeux Olympiques de Tokyo se sont maintenus, même avec un retard, même avec pas de public, même avec, c'est triste pour tout le monde, mais ils se sont maintenus. Je pense que le déficit pour les marques qui étaient engagées, comme pour tous les organisateurs, a été important. On le paye cher, on l'a payé cher, et certains l'ont payé cher, mais ils ont réussi à le maintenir. Est-ce qu'il faut envisager ça pour Paris? Je crois que oui, ça doit être dans nos esprits. Ça s'est produit, ça se reproduira probablement. Pas l'annulation, mais la contrainte, quoi. Il faut intégrer que on aura peut-être moins de spectateurs dans les enceintes, ou intégrer que on va pas pouvoir se déployer de la façon dont on aimerait le faire. Après, je pense que les jeux, c'est pas non plus que les marques, d'accord? Il faut c'est pour le mouvement sportif que c'est le plus important aussi, pour les spectateurs, pour donc les compétitions, elles, on sait depuis Tokyo qu'elles peuvent avoir lieu, même sous contraintes sanitaires très fortes. Donc on va dire que s'il y a les compétiteurs, s'il y a les sportifs, s'il y a les télévisions qui peuvent rendre compte, c'est déjà une étape énorme. Après, les marques, c'est un autre sujet parce que c'est du financement. Mais voilà, quoi.
Eh bien, faisons une petite digression dans ce podcast avec un autre sujet tout aussi important. On observe ces derniers mois dans tous les domaines du sport une recrudescence des actes de violence. Quelle solution, justement, face à ce phénomène ?
Moi, pour ma part, je pense qu'il faut rendre plus sévères les sentences en faveur des victimes, parce que aujourd'hui, même récemment, il y a beaucoup d'événements qui se passent. Et en fait, je trouve que plus les sentences seront sévères et plus ça désincitera les personnes à agir de la sorte, parce que on se permet plein de choses. Beaucoup de personnes se permettent plein de choses parce qu'ils savent que derrière, ils seront peut-être relaxés ou il n'y aura pas trop suite à ces incidents-là. Donc, je pense que c'est vraiment par ça que ça peut passer.
Est-ce que vous pensez que ça passe pas aussi par une communication, disons plus communication de la Ligue, des instances sportives aussi, un plan de communication ?
Oui, je pense que ça peut aussi marcher dans ce sens-là, c'est-à-dire créer des campagnes, peut-être éduquer de plus en plus les sportifs, faire des interventions au niveau de la violence, et même au sein des écoles. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'interventions sur la drogue, sur plein de sujets comme ça, mais c'est vrai que les violences, et surtout les violences faites aux femmes, sont des sujets encore un peu trop tabous, surtout dans le monde du sport.
À propos des violences, je pense qu'il faut distinguer l'exemple récent qui a eu lieu dans un stade et un jet de bouteille, même en plastique, qui est un exemple de à la fois la passion et la passion que génère le sport, et la bêtise auquel elle est associée. Je serais assez d'avis et d'accord avec toi. Il y a des sanctions, d'ailleurs, elles sont tombées. Il est interdit de stade. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Sauf que c'est pas pour rien que ça arrive. C'est-à-dire que tous les acteurs de la chaîne doivent être responsables. Ils sont tous acteurs de cette violence-là. Lui, il est pris la main dans le sac avec des caméras. Donc voilà, mais c'est les entraîneurs, les joueurs, la violence des joueurs vis-à-vis des arbitres, la violence des entraîneurs vis-à-vis des arbitres, la violence, enfin, je veux dire, cette violence, elle est partout. On parle beaucoup du football, moins d'autres sports, mais cette violence, elle est présente. Donc finalement, elle entraîne. Et ceux qui dirigent ces clubs, ceux qui dirigent ces équipes, c'est à eux d'être exemplaires pour que quand on enseigne aux enfants dans les écoles qui doivent respecter les règles, si à la télévision ils voient le contraire sous leurs yeux, ils peuvent plus comprendre ça. Ouais. Après, l'autre violence dont on fait éventuellement référence, tristement à cause de l'actualité, c'est pas le sport. Enfin, que ce couple soit un couple de sportifs ne change rien à l'affaire. C'est une agression caractérisée visiblement pour à l'encontre d'une femme, et c'est un autre sujet pour le coup, je trouve.
Et justement, est-ce que vous pensez que ça passe par un travail de communication au niveau des instances? Plus de la Ligue pour contrer ces violences.
Dans les stades ?
Dans les stades ou sur les réseaux également.
Oui.
On en a de plus en plus.
Moi, j'ai l'impression que toutes les instances sont mobilisées d'une façon ou d'une autre. Ils sont tous conscients de ces agressions racistes, antisémites. C'est notre quotidien depuis, mais c'est notre société qui est comme ça. C'est un problème sociétal. C'est pas un problème du sport. Le sport n'est que la traduction. Ça se traduit dans nos enceintes sportives. Mais c'est pas le sport qui est responsable de ça. Il rajoute juste une pression supplémentaire parce que il y a de l'argent, il y a besoin de résultats. Voilà. Je pense que toutes les instances sont au courant. Je crois à l'exemplarité. D'accord. Je encore une fois, le jour où les leaders de chaque sport se comporteront très bien, ils imposeront leur comportement aux autres, quoi. Mais il faut qu'on les aide. Enfin, il faut qu'ils se sentent porteurs d'une responsabilité. Ils ont déjà tellement de responsabilités sportives que, je veux dire, on leur refile tous les maux de la société sur leurs épaules et on leur demande de tout régler parce qu'ils sont des icônes. Mais c'est juste très, très compliqué, quoi. Très compliqué à comprendre, très compliqué à porter aussi. Il faut pouvoir. Enfin, je veux dire, un sportif, il s'occupe... Enfin, son premier devoir, c'est de réussir dans son sport. Il faut que... Enfin, c'est pour ça qu'on l'attend, d'ailleurs. Et puis, s'il peut, en plus, engager la transformation de la société, c'est juste génial. Mais c'est son devoir numéro 2, on va dire, d'accord ? C'est pas le premier. Donc, oui, je suis sûr qu'il y en a qui peuvent le faire, et je suis sûr qu'il y en a d'ailleurs qui le font. Hein. Et moi, c'est surtout à ça que je crois, quoi.
Et justement, en tant qu'athlète, comment gère-t-on la relation avec ses fans, que ce soit en physique ou en virtuel ?
Moi, déjà, j'ai du mal avec cette notion de fan, parce que je me considère... au même statut que ces gens-là. Donc, je dirais plus que ce sont des personnes qui m'accompagnent et qui me soutiennent plus que des fans. Et je trouve que c'est une bonne chose pour des athlètes de se sentir soutenus par de milliers de personnes. Et, parce que, du coup, ça nous donne une responsabilité envers eux. Justement, quand on peut être porteur de messages, c'est quelque chose de très bien. Et moi, pour ma part, je suis issue d'une double culture. Donc, j'ai une énorme communauté aussi africaine et aussi également française. Et c'est vraiment beaucoup de messages de bienveillance. Donc, c'est quelque chose qui me plaît.
Donc, moi, je vais me permettre d'intervenir, mais plus du côté en tant que conseiller. Aujourd'hui, je pense que là aussi, il y a une certaine, pas éducation, mais formation à faire pour les sportifs au niveau de leur communauté. J'appellerai pas ça de comme Rogi, j'appellerai pas ça des fans, mais de la communauté de supporters, pour conseiller des marques ou des équipementiers et de l'autre côté des athlètes. Les marques cherchent plus la même chose aujourd'hui et les athlètes ont du mal à trouver des partenaires, qu'ils soient équipementiers ou autres. Parce que aujourd'hui, on regarde l'audience, on regarde les followers, c'est l'ère des réseaux sociaux. Et j'ai des sportifs qui viennent me dire que voilà, on leur propose des contrats ou enfin, qui ont des propositions peut-être moins avantageuses que certains ou certaines créateurs ou créatrices de contenu. Parce qu'aujourd'hui, on est dans ce monde des réseaux sociaux. Tu as moins de followers, donc tu as moins d'audience, tu touches moins de personnes, tu auras moins. On néglige un peu la performance, on sait un peu moins ce qu'est une médaille olympique ou une médaille mondiale. C'est un peu difficile à vivre pour les athlètes, d'après ce que moi j'entends. Et je pense qu'il y a une vraie formation à faire au niveau de l'image des sportifs et de la gestion de leur image, de leurs réseaux sociaux, de tous leurs vecteurs de communication, pour pouvoir avancer sur ces points-là et pour pouvoir, pour utiliser ce mot-là, ouais, pour pouvoir réconcilier athlète d'un côté et partenaire de toutes sortes de l'autre côté.
Est-ce que vous pensez justement que les réseaux sociaux peuvent jouer dans les partenariats qu'ont les sportifs ? Ça a un impact ?
Aujourd'hui, énormément. Aujourd'hui, je vais enfoncer une porte ouverte, mais les réseaux sociaux font intégralement partie du plan marketing ou de communication des sportifs, des marques et de tout autre type de partenaire. La plupart des gens qu'on touche sont par les réseaux sociaux pour les athlètes.
Vincent, vous voulez intervenir sur ce sujet ?
Oui, moi je pense que dans mon métier, on organise des fan zones. D'accord ? Il y a des milliers de gens qui veulent même pas, ils assistent même pas au match, ils se rassemblent entre eux pour regarder des épreuves sur des écrans. La proximité avec les sportifs de haut niveau, elle est juste, c'est un effet démultiplicateur énorme. Il y a une attente, il y a une. Enfin, nous, on a la chance de travailler avec le top 14 de rugby ou l'équipe de France de foot. Mais quand je vois alors ce sont des sports collectifs, mais c'est pareil pour des sports individuels. Tout d'un coup, là, les gens sont fans au vrai sens du terme. Ils ont envie d'être proches, d'apprendre, de comprendre, de toucher. Enfin, il faut pas sous-estimer ça. C'est très, très important. Et ça a une influence très forte, quoi. Le tour de stade de certains artistes, de certains sportifs, pardon. Mais c'est générateur d'énergie, de positif, quoi. Il y a qu'à voir le regard des enfants. Enfin, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Donc, je pense que c'est une force pour certains athlètes. Il faut pas que ce soit paralysant ou oppressant, parce que ça peut devenir oppressant. Mais pour engager encore une fois la société, pour engager des virages, c'est juste énorme.
Est-ce que c'est pas cette même passion aussi qui est génératrice des dérives dans les stades ou sur les réseaux sociaux?
Bien sûr, bien sûr. Mais on va dire que aujourd'hui on va l'avoir en positif.
Mais Owen voulait intervenir.
Oui, je rebondis sur ce que dit Vincent. Cette relation fan athlète athlète fan qui est génératrice de passion, comme dit Vincent justement, elle n'est pas génératrice seulement de choses négatives. On voit pas mal de choses se développer et des choses positives. Je vais parler un peu de quelque chose d'innovant. On voit les plateformes de blockchain ou de crypto-monnaie arriver dans le sport, par exemple. Quand on regarde des équipes comme le PSG ou autres qui pour leurs fans vont développer un fan token ou autre chose, c'est cette relation fan qui mène vers l'innovation. Ce qu'on promet aux fans sur ce concept, c'est de pouvoir participer, par exemple, à certaines décisions du club, un brassard de capitaine, une hymne, un maillot ou quoi que ce soit. Mais c'est cette relation fan à athlète et athlète à fan qui pousse vers cette évolution positive. Donc, je pense qu'il faut pas avoir cette passion pour le sport et cette relation fan athlète athlète fan comme quelque chose de nécessairement négatif ou générateur de choses négatives. Je pense qu'elle peut générer beaucoup de choses positives et beaucoup d'innovations.
Justement, Mewen, vous aviez créé en 2018 Ferré Sport Invest, un cabinet de conseil aux personnes publiques et aux entreprises. Vous vous occupez également de la création d'événements sportifs. Parlons de Paris 2024, vu que c'est notre sujet du jour. Est-ce que Paris 2024, pour vous, c'est une opportunité d'accélérer le développement de votre business ?
Je pense que Paris 2024, c'est une très belle opportunité, comme on disait tout à l'heure, au niveau de la création d'emplois. Et pour certaines PME, mais des PME pour des secteurs ciblés. On va parler de l'hôtellerie, de la restauration, de la construction. Mais pour une agence comme la mienne, je pense que ça ne va ni accélérer ni ralentir le développement.
Après votre carrière justement de judoka, vous n'avez pas quitté le monde du sport. Maintenant, vous accompagnez plusieurs athlètes dans leur développement. Pouvez-vous nous en parler ? Comment ça s'organise au quotidien ?
Alors, je vais essayer d'être clair. J'ai démarré en 2018 cette structure qui est Ferré Sport Invest, qui est un peu, on pourrait dire, bicéphale. Il y a une partie de conseil, comme vous l'avez dit, où je vais conseiller des acteurs, des personnes publiques ou des personnes privées, principalement sur de la stratégie ou des problèmes juridiques sportifs ou sur des questions de monétisation, et des athlètes. Des athlètes, je peux vous donner deux exemples de les deux dernières missions qu'on a menées. Une avec un jeune franco-burkinabé qui s'appelle Lucas Diallo, qu'on a accompagné depuis 2018, depuis le début jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo. Quand on les accompagne de façon holistique, vraiment quelque chose de global. Au-delà d'avoir été qualifié, d'avoir participé aux Jeux de Rio, c'est un garçon qui est rentré en master, alors à Sciences Po Paris également, mais un master défense, sécurité et défense, excusez-moi. Et un autre profil qu'on a pu accompagner, donc un jeune issu des équipes de France de taekwondo, qui s'est mis au football américain et qu'on a accompagné de la même manière globale jusqu'au programme NFL, jusqu'au programme NFL Player Pathway. Et on saura dans quelques temps s'il intègre une franchise américaine ou pas. Ça, c'est une des parties du conseil, mais comme je vous disais, le plus gros du conseil chez FSI, ça va être sur des questions stratégiques ou de monétisation ou autres ou juridiques sportives. L'autre partie, c'est de la création d'événements sportifs, et le premier aura lieu un peu avant la fin de l'été, et sur des sports, la plupart qui ne sont pas des sports olympiques. Donc, j'inviterai toutes les personnes à cette table à venir assister au premier en mai ou juin 2022.
Alors, Rougui, pour parler un peu de votre carrière, vous avez terminé 9e de la finale olympique aux Jeux de Tokyo en juillet dernier. C'était pour vous une immense déception, j'imagine. Comment on se prépare en tant qu'athlète pour Paris 2024 ? Est-ce qu'on a toujours la même motivation ?
Déjà, Paris 2024, pour tous les athlètes français, je pense que c'est le plus gros tournant d'une carrière parce qu'on est à la maison et que tous les projecteurs sont tournés vers nous.
Est-ce qu'il y a davantage de pression, justement, quand on est à domicile ?
Il y a davantage de pression, mais je pense que c'est de la bonne pression parce qu'il n'y a rien de mieux pour un sportif que de pouvoir combattre ou concourir à la maison, devant la famille, devant nos amis, devant notre entourage. Et pour ma part, en fait, ces trois prochaines années, ça va être vraiment l'entraînement va être axé sur de plus gros volumes et vraiment aussi un aspect mental beaucoup plus important parce que notre coach, qui était lui aussi athlète de haut niveau, sait ce que c'est que la pression médiatique et aussi tout ce qui entoure en fait la vie d'un sportif. Et sachant que là, les enjeux vont être vraiment tournés vers nous, il veut nous préparer à ce qu'on puisse gérer cette pression supplémentaire et aussi pouvoir remporter la plus belle des médailles parce que c'est l'objectif premier.
Quels sont les conseils justement de votre coach pour faire face à la pression médiatique?
Se créer en fait une bulle, pouvoir être concentré sur nos entraînements, mais aussi pouvoir répondre aux sollicitations médiatiques parce que ça fait partie du jeu. Il faut savoir qu'un athlète, c'est plus le niveau monte et plus l'image est à travailler. Donc c'est vrai que il faudra répondre à tout ce qui est sollicitation, mais tout en veillant à ce que ça n'empiète pas sur la partie entraînement.
C'est la fin de ce premier épisode du Business Club. Merci à nos invités pour leur participation. Merci Vincent. Merci Méoen. Merci Rougi. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. À très vite dans le Business Club.